présenté par Perrine Kervran
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire Vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, la visite d'un nouveau lieu de mémoire inauguré le 27 janvier dans l'ancienne gare de Bobigny, cette ancienne gare qui a été un des lieux principaux de la déportation des Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau entre juillet 43 et août 45. Ce lieu, au cœur de la Seine-Saint-Denis, est un carrefour d'autres lieux de la persécution des Juifs de France, la cité de la Muette, plus connue comme le camp de Drancy, où les Juifs furent emprisonnés avant d'être déportés, et la gare du Bourget, d'où les convois sont partis jusqu'en 1943. Cette inauguration est l'occasion de revenir sur cette histoire de la déportation à Seine-Saint-Denis, mais aussi de réfléchir sur la question même de lieu de mémoire, de sa fonction, de son intégration dans le tissu urbain et social, et aussi de la conservation de ces lieux. Faut-il les restaurer, les figer dans le temps, voire les rendre à d'autres fonctions ? Toutes ces questions, les élus de la ville de Bobigny et tous ceux qui ont travaillé sur ce projet se les sont posées pour aboutir à cette gare devenue jardin et lieu de mémoire. Avec nous pour en parler, Anne Bourgon, chef de projet de ce mémorial de la gare de Bobigny. Anne Bourgon, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, vous pouvez nous parler de l'histoire de la mémoire de ce lieu avant d'aborder ce jardin qui va être inauguré. Peut-être essayer de nous dire combien de temps il a fallu attendre avant que ce lieu soit reconnu comme un lieu de la déportation.
Eh bien effectivement, la construction de la mémoire de cette gare et puis aussi de la cité de la Muette à Drancy, qui est très liée, les deux sites étant très liés, s'est construite progressivement dans le temps. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la gare de Bobigny, pendant longtemps, jusqu'en 2005, de l'après-guerre jusqu'en 2005, le lieu a été recouvert d'un amoncellement de ferraille, puisqu'un ferrailleur y exerçait son activité. C'est seulement en 2005 que le ferrailleur est parti. La même année, le site a été reconnu en tant que monument historique, et ce qui a rendu possible la mise en place d'un projet d'une façon progressive. C'est vrai que, outre l'aspect très pratique, la mémoire de la Shoah n'était pas centrale jusqu'au début des années 80 dans la construction de la mémoire en France. Par ailleurs, paradoxalement, cette ferraille a protégé le site jusqu'à aujourd'hui.
Et alors peut-être aussi, il faut évoquer la fin des années 80 où le site a été menacé de destruction.
Alors oui, en fait le site est une vaste friche de 35 000 m², soit 3 stades et demi de foot, ce qui constitue une emprise importante de la ville. Et sur cette emprise se trouvent deux bâtiments, un bâtiment des voyageurs et une gare de marchandises. Et c'est depuis la gare de marchandises que les déportés juifs du camp Drancy sont partis. Et quant à la gare de voyageurs, elle abritait des cheminots qui ont été témoins de l'embarquement des déportés pour Auschwitz-Birkenau. Elle a été effectivement menacée de destruction début des années 90. Georges Valbon, qui était alors maire de Bobigny et président du Conseil général, a interpellé l'État et la SNCF pour empêcher sa démolition, ce qui a été le début d'une prise de conscience quant à l'importance de ce lieu dans la mémoire collective.
Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'usage, même d'individus, de démarches individuelles, de gens qui venaient sur ce lieu.
Non, il n'y avait pas de démarches individuelles. Un autre élément important aussi de la reconnaissance de ce site en tant que lieu de mémoire est un film réalisé par Henri Jouffe qui s'appelait Bobigny, gare de la douleur, et qui date aussi de la fin des années 80, début 90, et qui a participé à une reconnaissance de ce lieu qui était enseveli sous la ferraille. La construction ensuite de la mémoire s'est faite très progressivement, et c'est vrai que le départ du ferrailleur a permis de passer à une autre étape de ce projet.
Oui, puis il faut aussi replacer ça dans le contexte de la Seine-Saint-Denis. C'était cette question de la déportation qui est assez présente, effectivement, dans le département, et puis qui voisine avec une mémoire communiste, résistante, qui a longtemps dominé dans l'historiographie en général.
Oui, c'est vrai, mais c'est tout à fait vrai, mais en même temps, les choses sont parfois plus complexes. Par exemple, à la cité de la Muette, à Drancy, c'est effectivement la mairie communiste, depuis même l'avant-guerre, qui a pris en charge l'aménagement de l'espace public pour que ce lieu soit un lieu de commémoration. Mais quand on regarde les photos des commémorations de 69 autour d'un panneau indiquant l'usage qui avait été fait de cette ancienne cité HLM, les chiffres sont les bons, ceux de la déportation. Il est bien spécifié qu'il s'agit d'une déportation juive et non pas générale. Et ensuite, effectivement, sur l'actuelle sculpture de Shlomo Selinger, on évoque 100 000 déportés. Il n'est pas fait référence à la spécificité du judéocide. C'est vrai que la mémoire de la résistance a été très forte pendant très longtemps. Par exemple, sur le bâtiment des voyageurs à la gare de Bobigny, les premières plaques apposées en 1947 font référence aux 100 000 déportés, chiffre, comme tout le monde le sait, qui est erroné. Et on fait largement mention du vaillant courage des cheminots de cette gare. Les témoignages qu'on a pu récolter sont bien sûr, ne vont pas forcément dans ce sens d'une résistance active des cheminots qui habitaient sur place pendant la guerre. Donc effectivement, il y a eu une mémoire résistante très longtemps centrale. Aujourd'hui, on est dans un effet de balancier. C'est la Shoah qui est devenue beaucoup plus centrale par rapport à l'histoire de la résistance. Et sur le territoire de la Seine-Saint-Denis se trouve un des principaux camps d'internement des résistants en France, qui est le fort de Romainville, qui lui n'est pas du tout aujourd'hui reconnu en tant que lieu de mémoire. Donc aujourd'hui on est dans une inversion finalement de ce dispositif. Et l'idée est aussi de montrer les points de convergence et les points de divergence peut-être de ces deux types de mémoire pour aller vers un rééquilibrage un jour. Et c'est ce à quoi réfléchit aussi aujourd'hui les élus locaux sur place.
Oui, puis il y a aussi cette question plus particulière, effectivement, de la SNCF, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de résistance parmi les cheminots, on sait que les cheminots ont posté les lettres qui étaient envoyées des wagons, mais on sait aussi voilà, que la SNCF était une part du processus de déportation de par l'utilisation des trains. Et c'est vrai que cette gare de Bobigny, finalement, est aussi un espèce de symbole de cette image ambiguë de la SNCF par rapport à cette histoire de la guerre.
Alors, est-ce qu'elle est ambiguë ? Oui, je pense que dans l'esprit du grand public, elle l'est, parce qu'effectivement, ce sont des cheminots français qui ont conduit les trains, et ça, on ne peut pas le nier. Le cadre était celui de la réquisition, et le débat historiographique voilà, court depuis de nombreuses années sur la responsabilité de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est le lieu à Bobigny, mais c'est vrai qu'en tout cas, l'exposition que l'on montre désormais sur ce site est centrée sur la déportation et pas du tout sur l'internement. On a fait le choix de traiter uniquement de l'histoire du lieu. Et dans cette histoire de la déportation, on montre les mécanismes et les jeux d'acteurs et les responsabilités de chacun, sachant que la gare de Bobigny est choisie par Aloïs Brunner à partir de juillet 1943, dans un contexte de reprise en main par l'administration berlinoise de la solution finale en France, et que la situation à Bobigny en juillet 1943 n'est pas tout à fait la même qu'à l'été 1942 à la gare du Bourget, où la responsabilité des forces de police françaises est beaucoup plus forte qu'à Bobigny, puisque Bobigny, c'est un moment de reprise en main par les Allemands.
Alors, peut-être on peut évoquer aussi le passé de ces lieux, puisqu'ils sont à rattacher à l'histoire du développement démographique de l'entre-deux-guerres, et puis à celui de la crise aussi, puisque ces lieux sont bientôt sous-exploités, voire vides, donc que ce soit la cité de la Muette à Drancy, ou que ce soit donc la gare de Bobigny. Et c'est intéressant aussi de replacer ces lieux qui se sont trouvés là, aussi du fait d'une évolution propre au développement démographique.
Et propre à l'histoire de ce territoire, c'est vrai que la banlieue nord-est de Paris est une banlieue qui connaît déjà avant-guerre, mais plus particulièrement entre deux guerres, une explosion démographique forte, et que la cité de la Muette à Drancy est construite dans le cadre, en réaction à un lotissement anarchique de la banlieue, pour offrir à ses ouvriers qui venaient partout de France et d'étrangers des conditions de vie décentes. Et ce qu'on sait assez mal sur la cité de la Muette, c'est que c'est le premier grand ensemble construit en France. Le mot « grand ensemble » est d'ailleurs employé par la critique architecturale à l'occasion de la construction de cette cité, qui est par ailleurs fait date dans l'histoire du mouvement moderne en architecture, et qui va même être exposée au MoMA à New York, qui va être visitée par Le Corbusier, qui va faire la une de toutes les revues d'architecture. En même temps que ce projet très novateur est encensé par un milieu qui est celui de l'architecture, c'est une opération qui est très critiquée, notamment par la presse de droite, puisque son principal père fondateur est Henri Sellier, qui est ministre de la Santé de Léon Blum. Et très rapidement, ces tours et ce projet, c'est les premiers gratte-ciel de la région parisienne. Il faut bien imaginer que les habitants n'avaient jamais vu de gratte-ciel, faire l'objet d'un sentiment de rejet de la part des futurs locataires. Si bien que les 5 tours vont être louées aux gardes mobiles, qui vont y être implantées, qui y sont encore aujourd'hui, même si les tours ont été démolies, et que le vaste bâtiment en U va rester vide très longtemps jusqu'à ce qu'il soit réquisitionné pour les premiers internement qui vont concerner les civils britanniques et français ainsi que les ressortissants des puissances ennemies avant de devenir le principal camp pour les juifs raflés sur le territoire français. Et dans les témoignages d'anciens internés du camp de Rancy, on voit souvent à quel point la silhouette de ces grandes tours pouvait marquer les esprits. Elles étaient vécues comme des sentinelles qui gardaient ce bâtiment en U, qui lui-même a une forme très particulière. Il se prête parfaitement à l'internement et à la concentration du fait de sa forme en U. Voilà.
Alors peut-être pouvez-vous nous parler, Anne Bourgon, de la naissance de ce projet. Comment finalement a été décidé l'aménagement de ce qui bientôt va être un jardin?
Alors ce sont des processus qui sont longs. On a d'abord décidé que, compte tenu du fait qu'il y aurait un mémorial à Drancy, il ne fallait pas rajouter de nouvel équipement muséographique, que ce n'était pas nécessaire, et que surtout la puissance et la force évocatrice de ce lieu étaient suffisamment grands pour qu'on n'ait pas à rajouter d'artifice scénographique. Donc très rapidement, les élus de la ville ont fait le choix de travailler un vide urbain plutôt que de créer un nouveau plein. Et pour cela, on a fait une étude d'aménagement paysager où les responsables de l'étude, qui étaient des étudiants en fin de cycle de l'école du paysage de Versailles, ont développé le concept d'un jardin de friche. Ils étaient encadrés par un paysagiste qui s'appelle Gilles Clément et qui a développé très largement ce concept de jardin en mouvement. L'idée, en fait, est de cultiver sur place des plantes dites indésirables qui existent déjà, qui sont des plantes de friche et qu'habituellement on ne trouve pas forcément très belles, mais qui ont des qualités et surtout qui font partie de la biodiversité. Et d'un point de vue symbolique, cultiver ces plantes de friche avec bienveillance et ces plantes dites indésirables, d'un point de vue allégorique, revient aussi à évoquer que sont parties de là des personnes jugées indésirables. Donc très rapidement, les associations d'anciens déportés avec lesquelles nous travaillons ont tout de suite repris vraiment ce projet de jardin, surtout que ça nous permet aussi de réintégrer ce site qui est aujourd'hui totalement isolé du reste de la communauté urbaine dans un projet d'aménagement plus global de la ville, en refaisant des liens entre des quartiers qui sont aujourd'hui isolés les uns des autres. Donc la commande aussi des élus de Bobigny, c'est de faire en sorte que ce lieu ne soit pas une enclave mémorielle et redevienne un lieu à part entière de la ville de Bobigny.
Oui, parce qu'il faut décrire ce lieu, donc c'est, vous l'avez dit, un espace qui est très vaste, traversé par des voies ferrées, il y a l'ancienne gare de marchandises, l'ancienne gare de voyageurs, mais c'est un endroit effectivement qui ressemble vraiment à une friche, on pourrait dire que c'est un terrain vague, alors évidemment ce sera autre chose, et quand on traverse le site, qu'on voit tout ce qui a été installé, on n'a pas du tout la sensation de traverser un terrain à l'abandon, mais au contraire quelque chose qui est très construit. Vous avez voulu relier ce site à l'histoire plus globale de la déportation en Seine-Saint-Denis, à l'histoire de Drancy, donc du Bourget. Comment est-ce que vous avez pensé ce qui est aussi une exposition dans ce jardin, une exposition permanente qui est très discrète, mais qui est très présente?
Oui, alors notre position, notre philosophie de projet est autant lié à la restauration des monuments et de la pierre qu'à la nécessité de créer de nouveaux liens. C'est un lieu, mais c'est aussi des liens. Et l'objectif est, par des actes culturels, des commémorations, des événements, des expositions et des visites, de permettre à chacun, famille d'anciens déportés, visiteurs, habitants de Bobigny, de se réapproprier ce lieu. Et ça nous semblait intéressant et très important surtout de faire en sorte que cette réappropriation ait lieu à travers un parcours commenté sur le site qui parle du rôle que le lieu a joué dans l'histoire de la déportation des Juifs de France avant même que tout soit réhabilité. Très souvent, ce qui se passe pour des projets similaires, c'est qu'on commence par dessiner un projet confié à un architecte, on fait un tour de table financier, et le projet est souvent réalisé que 8 ans, 10 ans après, avec une muséo qui est plus tout à fait adaptée, l'historiographie a évolué. Donc notre idée était d'être dans un processus évolutif dans le temps, et donc la scénographie que nous mettons en place est pérenne d'une certaine manière, puisque nous allons pouvoir recevoir du public dans les semaines et les mois et les années qui viennent, mais en même temps, on va le faire évoluer. Il y a des séquences, nous pensons, qui seront confirmées, pérennisées totalement, d'autres qui seront peut-être déplacées au fur et à mesure de la réhabilitation des bâtiments, et puis d'autres qui, à mon avis, pourront définitivement changer. Donc l'idée est vraiment d'une évolution au pas à pas de ce projet, et tout ce que nous posons dans le site est toujours pensé, sachant qu'on agit pour... on ne veut pas restaurer trop fortement les lieux qui a un esprit, on parle d'esprit du lieu beaucoup, Et nos interventions sont très homéopathiques et on ne veut surtout pas restaurer ou faire un Disneyland qui n'aurait plus de sens par rapport à ce qu'est ce site aujourd'hui.
Oui, donc sur le site, il faut le dire, on voit sur une des façades d'un des bâtiments un dessin qui représente les lieux tels qu'ils étaient à l'époque, entourés de jardins avec cette gare en activité. On peut voir aussi sur un mur plusieurs photographies qui sont des photographies qui racontent ce moment où les Juifs sont embarqués de force dans les wagons, alors dans différents lieux, dans différentes villes d'Europe, dans différentes gares. Et puis il y a aussi donc des témoignages de rescapés qui racontent le récit de cette déportation ou ces lettres qui ont été jetées des wagons et retrouvées, qu'on peut lire, qui sont donc affichées sur le mur de la gare de marchandises. Il y a aussi une carte qui montre la circulation de la déportation. Et puis la liste des convois. Donc il y a quand même plusieurs éléments historiographiques forts qui permettent, si on le souhaite, alors rien n'est imposé, ce n'est pas, on ne va pas dans un musée, donc on est dans un lieu, qui permettent, si on le souhaite, de comprendre évidemment ce qui s'est passé dans ce lieu, mais de comprendre plus globalement ce qui s'est passé au niveau européen.
Oui, je pense que c'était vraiment notre volonté d'être dans une démarche qui consistait à expliquer aussi une complexité du phénomène, parce qu'on se fait une représentation de la déportation très liée peut-être au cinéma, à Amène notamment, où on voit ces wagons à des rythmes réguliers, ces convois qui vont à Auschwitz et qui reviennent vides. En réalité, ce qu'on montre aussi sur ce site, c'est que il y a des temps dans la déportation, à des moments à partir de juillet 42 notamment, où le rythme est très soutenu pendant 3-4 mois et qu'ensuite il va avoir pendant 2 mois les départs vont cesser puis vont reprendre à des rythmes beaucoup moins soutenus. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est comment des décisions prises à Berlin impactent au fur et à mesure des négociations avec Vichy les rythmes de déportation et de montrer cette complexité. Et j'ai reçu hier une cinquantaine d'enseignants de l'Académie de Créteil sur place et je pensais que le discours que nous tenons, qui nous a semblé devoir être accessible quand même à des gens qui n'ont pas fait d'études longues, était peut-être d'un niveau pas suffisant pour des enseignants du secondaire. Et finalement, je me suis aperçue que même les enseignants avaient parfois des représentations de l'événement qui étaient un petit peu dictées finalement par le cinéma ou même la télévision. Et donc, on a essayé d'expliquer cette complexité, mais avec une économie de moyens aussi, parce qu'on ne tenait pas à mettre en place trop de documents qui seraient venus brouiller la lecture du site. En revanche, nous avons un petit livret de visite et à terme, nous allons mettre en place un fichier audio MP3 téléchargeable avant la visite qui permet de compléter pour aller plus loin que ce qu'on a mis en place aujourd'hui, avoir d'autres images qui vont plus en avant encore dans la description du rôle que ce lieu a joué.
Oui, parce qu'il faut comprendre comment fonctionnait cette gare de Bobigny au moment où elle était donc dévolue à ce projet de déportation et d'extermination allemand, nazi. C'était une gare qui a été choisie aussi parce qu'elle permettait de réaliser ces opérations en toute discrétion. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un souci, qu'il faut rappeler, un souci du secret autour de ce projet de déportation.
Alors oui et non, ce n'a pas toujours été le cas, puisque les premiers départs qui avaient lieu du Bourget jusqu'en juillet 1942 se faisaient aux yeux de tous, hein, puisque la gare du Bourget était encore une gare de voyageurs qui fonctionnait tout à fait normalement pendant la guerre. Donc jusqu'à juillet 1943, ce souci de discrétion n'est pas le plus important. Il le devient peut-être parce que les accords sont plus tout à fait les mêmes entre l'Allemagne et la France, que la déportation des Juifs français a débuté. Et puis, outre les arguments de discrétion, d'autres facteurs interviennent dans le choix que fait Aloïs Brunner pour cette gare. C'est que d'un point de vue logistique, elle possède une grande voie de garage qui est bien plus pratique que les voies du Bourget. Et enfin, peut-être troisième élément, les bombardements alliés ont commencé et comme le Bourget est un nœud ferroviaire important, il y a peut-être plus de risques de bombardement au Bourget qu'à Bobigny. Donc trois arguments, mais c'est vrai que cet argument de discrétion est aussi important puisque la gare à l'époque est construite dans des champs et qu'il y a très peu de construction autour.
Alors il faut dire aussi que donc sur les photos qu'on voit sur le site, il n'y a aucune photo de Bobigny, puisqu'effectivement, il n'y a eu aucune photo prise de cette déportation.
Peut-être y en a-t-il eu, mais on ne les a pas trouvées. On les a cherchées un peu partout en Europe et notamment en Allemagne. On ne les a pas trouvés. Alors, ne les trouvons pas, on s'est aperçu que Yad Vashem en Israël et le Washington Memorial Holocaust disposaient d'un fonds avec plusieurs photos où l'on voyait l'embarquement des déportés juifs acheminés jusqu'à Auschwitz-Birkenau. Donc, sur la vingtaine de photos qu'on a trouvées avec l'historien Thomas Fontaine, avec lequel je travaille, on a fait le choix de 8 photos qui montre cet exact moment où les déportés embarquaient dans les wagons. On s'est dit que le phénomène était de toute façon européen et que c'était le même geste au même moment partout en Europe. Le reproche qui peut nous être fait, c'est que nous avons beaucoup de photos de l'Est, d'Europe de l'Est, beaucoup moins de l'Ouest, à part une série de photos liées à Westerbork, le camp hollandais. Je pense qu'à l'Est de l'Europe, on se cachait beaucoup moins pour cela et que du coup les photos ont été plus faciles.
Peut-être vous pouvez nous parler aussi, Anne Bourgon, de ces questions que vous êtes posées, de qu'est-ce qu'il faut restaurer, qu'est-ce qu'il faut figer, qu'est-ce qu'il faut réhabiliter, pourquoi choisir de faire de ce lieu un lieu de passage, est-ce que vous pensez que ça pourra aussi être un lieu de recueillement, un lieu de cérémonie? Comment est-ce que vous avez comme ça imaginé la signification de ce lieu?
Alors c'est difficile de trouver un équilibre entre une sacralité du lieu que l'on figerait et un désir de le rendre quand même vivant. C'est difficile, mais en même temps, contrairement à Auschwitz-Birkenau, la gare de Bobigny n'est pas un lieu de mise à mort, c'est un lieu de passage, c'est une gare. Certains déportés ont gardé un souvenir très précis de l'embarquement à Bobigny, avaient même le nom Bobigny en tête, et d'autres, jusqu'à leur retour, ne savaient pas du tout, jusqu'aux travaux de Serge Klarsfeld, ne savaient pas qu'ils étaient partis de Bobigny et pensaient qu'ils étaient partis du Bourget. Donc il faut trouver un équilibre. Je pense que c'est possible en hiérarchisant les espaces. Donc on a prévu des espaces de transition entre la ville et le lieu de mémoire lui-même. Ce qu'on appelle le lieu de mémoire, c'est la cour marchandises où ont été embarqués les déportés, plus les voies des anciens déportés qui, eux, peuvent être, à mon avis, sacralisées et laissées telles quelles et restaurées. En revanche, on a des espaces de transition sous forme de jardins qui permettent aussi à un public plus large de se réapproprier le lieu. C'est très difficile de faire vivre 35 000 m² avec uniquement de la commémoration ou du recueillement, lequel existe. J'ai souvent des demandes de familles d'anciens déportés qui, aux dates anniversaires des convois, veulent venir sur place. Et pour ça, le dispositif scénographique qu'on a mis en place à travers la liste des 74 convois de la solution finale établie par Klarsfeld pourra être, à mon avis, à terme, devenir un monument un peu de recueillement où on pourra déposer une bougie ou une fleur ou un petit caillou.
Quelles seront, pour finir, Anne Bourgon, les prochaines étapes de ce site modeste, mais modeste dans le bon sens du terme?
Alors, les prochaines étapes, c'est probablement de lancer une consultation de paysagistes pour la réalisation de ce jardin. Et puis, c'est des tours de table financiers pour réaliser des travaux. Alors, on a déjà réalisé une première phase de travaux conservatoires sur un des bâtiments, ce qui lui a permis de retrouver une dignité. Et d'ailleurs, dès que l'on intervient, qu'on réinvestit le lieu, il est beaucoup moins sujet aux dégradations qu'il n'a pu l'être dans le passé. Donc, ça nous semble important de prendre soin de ce lieu pour éviter qu'il se dégrade. Et donc, y a un travail à faire sur l'aménagement paysager, sur les limites. Et puis, il y a un travail à faire pour moi ces prochains mois qui est des tours de table financiers pour récolter les fonds nécessaires à cette mise en œuvre de nos intentions.
Est-ce que vous pensez que les habitants de Bobigny étaient conscients de l'importance et en tout cas de ce qui s'est passé dans cette gare qui est là depuis toujours?
Je pense qu'ils connaissent assez mal l'histoire de la déportation en France, et quand on en reçoit, en même temps, je sens un grand intérêt avec des questions qui, pour nous qui travaillons depuis quelques années sur la Shoah, peuvent nous paraître naïves, mais qui peuvent avoir aussi tout leur sens quand on parle avec eux. Et je me souviens d'une visite avec un jeune de la cité d'à côté, d'origine, je pense, antillaise, disant: mais est-ce qu'il y a aussi eu des Noirs qui étaient déportés? Moi, je lui dis: mais quelle drôle de question. Et en réalité, il y avait un ancien déporté avec nous qui a pu témoigner qu'effectivement, il y avait quelques gens de couleur aussi dans les convois de déportation. Et donc, ces jeunes nous incitent parfois à déconstruire nos propres représentations également.
Merci encore. Je rappelle, Anne Bourgon, que vous avez donc travaillé en tant que chef de projet à la réalisation de ce mémorial autour de la gare de Bobigny, qui a été inauguré le 27 janvier. Est-ce qu'il y a peut-être un site internet, quelque chose qu'on peut consulter?
Oui, alors il y a un site internet qui s'appelle www.garedeportation.bobigny.fr, où se trouvent mes coordonnées pour, sur demande, faire une visite de ce lieu.
Merci encore, c'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver: et nous réécouter sur internet www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.